Voilà, ben nous sommes donc heureux d'accueillir Nathalie Artaud, ici présente, pour cette première réunion publique des régionales. Et nous sommes un certain nombre à être candidats sur cette liste, puisque vous le savez, elle comprend 135 candidats sur les 6 départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, à ma droite, François Roche, qui est ouvrier dans l'aéronautique et qui est donc la tête de liste pour le département des Bouches-du-Rhône. Alors, je ne les vois pas tous, mais donc Nathalie Mailleul, qui est aussi candidate dans les Bouches-du-Rhône, travaille à l'hôpital. Estelle Jacquet, qui est tête de liste dans les Alpes-Maritimes. Qui est enseignante, Jean-Michel qui est Giotto qui est voilà, là-bas et qui est spécialiste dans le bar, Guy Dubost qui lève la main, qui est candidat aussi, ouvrier métallurgiste, jeune retraité qui est candidat dans les Alpes, ainsi que Annabelle Ross, téléconseillère. Voilà qui est aussi candidate dans les Hautes-Alpes. Et donc, Rémi, il me manquait le Vaucluse, dernier département. Rémi Balzani, aussi dans l'aéronautique, candidat dans le Vaucluse. Voilà. Et donc, moi-même, Isabelle Bonnet, qui suis enseignante et qui conduit la liste pour la région PACA. Et donc, je vais passer la parole. Sans plus attendre, à Nathalie Artaud. Merci. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette réunion. Il s'agit d'abord d'une discussion, d'un moment d'échange, de débat. Donc, sentez-vous libre d'intervenir, de dire ce que vous avez sur le cœur, de poser vos questions, d'illustrer, de dire ce que vous avez envie. La parole sera à vous. Je vais quand même faire une introduction pour poser un peu notre politique, ce qu'on cherche à faire dans cette période. Je voudrais dire à tous ceux qui ne nous connaissent pas bien, qui ne connaissent pas bien la lutte ouvrière, que nous, on se fait un principe de se présenter à toutes les élections. À absolument toutes les élections, parce que quand on nous demande notre avis, eh bien, on a l'habitude tout simplement de le dire, voilà, de l'ouvrir, y compris quand on ne nous le demande pas d'ailleurs, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans les élections. Voilà. On pense que quand on est en colère, quand on a des revendications, des intérêts à défendre, il faut le faire. Il faut les affirmer en tout temps et en tout lieu, tout simplement. Mais on pense qu'il n'y a rien de plus à attendre des élections. À l'inverse de toutes les listes là, qui rivalisent dans ces élections régionales, nous ne pensons absolument pas que le sort des travailleurs dépende de ces élections, ou même que l'amélioration du sort des travailleurs dépende des élections. Nous, on pense que le sort et l'avenir des places populaires se jouent en fait dans les entreprises. Ils se jouent dans le rapport de force que les travailleurs sont en mesure d'imposer au grand patronat. Ils se jouent dans la lutte de classe. Voilà. Et cette lutte de classe, depuis maintenant des décennies, elle est devenue de plus en plus féroce, parce qu'il y a la crise du capitalisme, parce qu'on est dans un système qui est vraiment au bout du rouleau, et la bourgeoisie, elle a du mal à développer ses affaires, la concurrence, elle est exacerbée, tous les marchés sont saturés. Donc, la seule façon pour elle d'avoir encore davantage de profits, c'est d'aggraver l'exploitation. C'est d'écraser les salaires, c'est d'augmenter les cadences, et du coup, c'est de surcharger les uns de boulot et les autres de les foutre à la porte. Donc, ça va, ça explique ce chômage de masse, ça explique ce recul de la société à tous les niveaux que l'on vit depuis déjà des décennies. Et on peut quand même que constater que cette crise sanitaire, ça a rajouté bien sûr un cran à cette, à cette lutte de classe. À cette lutte de classe parce que, certes, une épidémie, un virus, c'est un phénomène naturel, mais même si le virus ne choisit pas entre les riches et les pauvres, hein, il n'empêche que c'est quand même les quartiers populaires, les villes ouvrières qui ont été les plus frappées par l'épidémie. Et ça s'explique très facilement, hein, c'est qu'il y a une fraction du monde du travail qui n'a jamais pu se protéger, qui est allée bosser, toujours, y compris dans la première période, hein, où il n'y avait pas moyen de se protéger parce qu'il n'y avait pas de masque, parce qu'il n'y avait pas de test, et ils y sont allés au péril de leur santé, en prenant effectivement des risques avec courage. Et ils y sont allés, et souvent, ils se sont contaminés, ils ont contaminé leur famille, et le résultat est là. Hein, c'est que les décès, les malades, eh ben oui, ils sont surreprésentés dans le monde du travail. Et ça, vous voyez, c'est vraiment le reflet de ce que c'est une société de classe, hein, où tout ce qui se passe, y compris les phénomènes, les événements naturels, eh ben, ils sont d'abord payés par les plus pauvres, par les plus exploités, ceux qui ont du mal à se loger et qui peuplent les transports en commun. Voilà, donc... oui, le monde du travail, il l'a payé très cher, cette crise. Il l'a payé d'abord de cette façon-là, puis il l'a payé, bien sûr, aussi avec le chômage. Le chômage total pour les uns, parce que ça a fait ni une ni deux dans plein d'entreprises. Hein. Les CDD, les intérimaires, se sont retrouvés à la porte, c'est-à-dire sans leur gagne-pain. Hein, ils avaient perdu leur moyen de vivre. Il a suffi de quelques jours. Même pas plus besoin de licencier, hein, puisque de toute façon, c'est plus maintenant des CDI, donc il n'y a plus ces procédures-là, hein, de licenciement qui prennent un peu plus de temps. Voilà. Et puis, ça a été aussi le chômage partiel. Et je voudrais dire que sur ce chômage partiel, que le gouvernement présente comme un cadeau, hein, fait aux travailleurs, je voudrais dire que non, ce n'était pas du tout un cadeau pour nous. D'abord, c'était en fait une réponse à une demande du patronat, hein, qui s'inquiétait quand même de savoir dans quelles conditions il allait retrouver ses salariés après la crise. Il préférait les retrouver vivants quand même. Hein. Voilà, c'était... Et donc, c'était une façon de préserver le personnel et la main-d'œuvre du grand patronat. C'était d'abord ça, cette histoire du chômage partiel. Et pour les travailleurs, 84% de son salaire net, bah ça a suffi pour basculer dans le dénuement, dans la misère, dans la galère. Surtout que les primes, hein, la plus grande partie des primes, ont complètement disparu. Donc ça a signifié pour plein de familles ouvrières des centaines d'euros de moins pendant des mois. Hein, donc d'où la misère qu'on a vue effectivement exploser, hein, avec les associations, les secours... le secours populaire, le restaurant du cœur, assailli, quoi. Voilà. Donc, on est confronté cette pandémie, elle a fait encore reculer le monde du travail. Et aujourd'hui, on voit bien, d'ailleurs, qu'elle est utilisée dans toutes les entreprises pour resserrer la vis, pour resserrer la discipline. Vous me direz peut-être dans la discussion, mais j'ai des exemples dans certaines entreprises où ne pas porter le masque, être vu au travail avec le masque en dessous du menton, c'est un motif de licenciement. Donc ça a été un moyen pour eux de se débarrasser de ceux dont ils voulaient se débarrasser, de resserrer la vis et puis d'aggraver encore une fois les conditions de travail. Bien souvent, là où on était trois à faire le travail, on se retrouve deux aujourd'hui. Et il y a un petit jeu comme ça entre les périodes de chômage partiel et puis les périodes où on retourne au boulot, où là, par contre, c'est on bosse à fond, hein, et où on nous impose des cadences qu'on ne faisait pas avant. Donc, il y a aussi, en plus de ce serrage de vis, hein, dans toutes les entreprises, il y a aussi toutes les annonces de suppression d'emplois. Parce qu'il n'y a pas un seul grand groupe, hein, qui n'annonce pas encore des vagues de suppression d'emplois. Donc plus le fait que le gouvernement, hein, que Macron se prépare à nous faire payer la note du Covid, hein, c'est clair, ça ne va pas s'arranger. Hein. Ce qui nous prépare, c'est de nouveaux coups. Ça va nous tomber dessus de tous les côtés. On le voit déjà avec la réforme chômage, qui quand même, vous vous rendez compte, au moment où le chômage a explosé, le gouvernement se permet de reprendre 2 milliards sur les chômeurs. C'est 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'économies pour le gouvernement, cette réforme. C'est autant d'allocations au chômage que les chômeurs ne vont pas toucher. Hein, et on voit bien qu'il veut remettre la réforme des retraites sur le tapis. Donc très clairement, la facture, il nous la prépare. Alors nous, dans cette période-là, hein, et dans ces élections, on a une seule chose à dire aux travailleurs. C'est que si on ne se bat pas, si on ne défend pas pied à pied nos intérêts, nos conditions de travail, nos conditions de vie, eh bien on reculera. Il faut renouer avec les luttes collectives. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'on se présente en mettant en avant ce qu'on appelle un programme de lutte. Un programme de lutte pour les travailleurs, hein, qu'on décline en trois points. Hein, c'est le premier point, c'est bien sûr le combat contre le chômage. On y reviendra dans la discussion, mais c'est un combat essentiel, pas seulement pour les chômeurs. C'est un moment essentiel pour les salariés qui subissent le chantage au chômage et qui parce que tous les patrons s'en servent du chômage, bien sûr, pour intensifier le travail, pour faire son chantage. Et puis, tout le monde en souffre parce que c'est la dégradation de la société. Parce qu'avec un chômage qui augmente, avec une misère qui est croissante, bien sûr qu'il y a une désagrégation de la vie sociale. Bien sûr qu'il y a des trafics, bien sûr qu'il y a de la délinquance, bien sûr qu'il y a des gens qui sont désespérés et puis qui font tout et n'importe quoi. Tout ça est lié. Donc, ce chômage, c'est un fléau pour toute la société. Et ça doit être, bien sûr, une des revendications qui nous unissent. Et les travailleurs, ils ont une réponse au chômage très simple, évidente même, si on raisonne d'un point de vue, du point de vue du bon sens, hein, c'est que faut se répartir le travail entre tous. Voilà. Il faut qu'on se répartisse le travail jusqu'à ce qu'il y ait zéro chômeur. Et ça, c'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué à faire. Dans les entreprises où il y a des baisses d'activité, eh ben, on garde tous les postes de travail. Les précaires aussi restent là où ils sont, hein, et on se répartit le travail qu'il y a à faire. Il n'y en a pas un qui quitte son poste, pas un qui perd son salaire. On oblige effectivement la direction, le patron, à répartir le travail entre tous, et ça sera tant mieux, d'abord ça sera tant mieux pour tous, parce que ça signifiera enfin une baisse des cadences, une baisse des rythmes de travail, et peut-être même une baisse des horaires de travail. Hein ? Donc tout ça, ça peut être que positif pour nous. On entend beaucoup, hein, sur cette question du chômage qu'il faut ramener le travail, qu'il faut relocaliser ou je ne sais quoi. On y reviendra peut-être dans la discussion. Nous, on pense que c'est typiquement une mesure qui est un piège à plein de niveaux pour les travailleurs. On y reviendra peut-être. Mais surtout, le travail, il n'y a pas besoin de le ramener, il y en a plein du travail. Il y en a plein déjà. On a bien vu ce qui s'est passé dans les hôpitaux quand même. On a vu ce qui s'est passé dans les EHPAD, on voit ce qui se passe dans l'éducation nationale, on voit les problèmes dans les transports, on voit que dans énormément de secteurs, il y a besoin de bras. Il y a des besoins auxquels il faudrait répondre. Donc il y a de quoi embaucher, en réalité. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans plein d'entreprises, le patronat fait pression pour faire du 12 heures, que les salariés fassent des sessions 12 heures de travail, que c'est des heures supplémentaires, qu'il faut travailler le dimanche. Donc c'est là qu'il faut embaucher et répartir effectivement le travail entre tous. Voilà. Aujourd'hui, dans cette société, avoir un travail et gagner sa vie, c'est le seul droit à peu près, c'est un droit élémentaire, c'est un droit vital. Alors il faut travailler moins, mais il faut travailler tous. Et quand je dis répartir le travail, je dis bien sûr avec un salaire complet. On ne touche bien sûr pas au salaire. Hein, au contraire, ça c'est le deuxième point, il faut les augmenter les salaires. Il faut les augmenter considérablement. Hein, il faut faire en sorte que quand on travaille, quand on est ouvrier, quand on est aide à domicile, quand on est aide-soignante, quand on est employé, caissière, on puisse vivre dignement de son travail. Voilà, ça veut dire augmenter son salaire. Augmenter le salaire, quand je dis augmenter le salaire, je pense bien sûr aussi aux allocations qui vont de pair, je pense aussi aux retraites, bien sûr, qui vont avec. Mais, et là, pareil, c'est un combat. Hein, Emmanuel Macron, il avait fait une belle déclaration là, en expliquant que c'était quand même dingue, hein, que les femmes et les hommes, aussi essentiels à la société, aussi indispensables, hein, soient si mal reconnus par la société. Mais aujourd'hui, on sort de la pandémie, les mêmes, ils continuent d'être surexploités, ils continuent d'être méprisés. Alors ces augmentations de salaire, ben, c'est pareil, c'est toujours pareil. Ça sera aussi l'objectif des luttes à mener. Mais encore une fois, nous, c'est cet objectif-là. Je sais bien qu'à gauche, il y a d'autres revendications très à la mode, par exemple, une réforme fiscale, hein, augmenter les impôts des riches, remettre en place, par exemple, l'impôt sur la fortune. Mais c'est possible, ils peuvent le remettre en place, l'impôt sur la fortune. Mais c'est ça qui va faire que le SMIC va passer à 1800, 1900, 2000 euros ? Évidemment non. Évidemment non. Nous, nos intérêts, ils sont là. Nos intérêts de travailleurs. Et nous, on n'attend pas que l'État veuille bien nous aider. Parce que nous, quand on est travailleurs, on ne cherche pas, on ne demande pas la charité. On veut notre dû. Si on porte la société, qu'on la fait tourner, bah oui, il faut que notre salaire, il nous permette de vivre dignement. Voilà, ça c'est le deuxième point. Puis le troisième point, qu'on veut aussi mettre dans la conscience des travailleurs, et qui va de pair avec les deux premiers, c'est le contrôle ouvrier sur les comptabilités, sur les agissements des entreprises. On sait que pendant cette crise, j'ai commencé par là, les classes populaires, elles se sont appauvries. Cette crise, ça a signifié des drames, des souffrances pour nous, un appauvrissement, plus de précarité, mais pour une minorité. Cette crise, ça a signifié plus de profits. Hein, il y a une minorité qui a réussi, qui a trouvé le moyen de s'enrichir, de prospérer. Il y a plus, on sort de cette crise avec plus de milliardaires. Ils ont accumulé des fortunes incroyables. Hein. Et un certain nombre de groupes, je ne pense pas que aux trusts pharmaceutiques, je pense aussi aux grandes surfaces, hein, la grande distribution, je pense à Amazon, bon, les Google, les Facebook, ok, mais les Amazon, les Ikea, tous ces grands groupes, ils ont fait du fric, beaucoup d'argent pendant la pandémie. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent à leurs salariés qui revendiquent des augmentations de salaire et d'être un peu soulagés avec des embauches? Ben, qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise, que ce n'est pas possible, hein, qu'il y a la compétitivité, etc., etc. Bon, eh ben, on veut voir. Il n'y a aucune raison de les croire sur parole. Ce grand patronat, exactement comme le gouvernement, il nous mente à longueur de temps. Donc nous, on veut voir les vrais chiffres. On veut voir et juger par nous-mêmes. Il faut avoir ça en tête, parce que sinon, on ne mettra pas fin au pillage des finances publiques. Hein, parce que vous avez vu aussi que là, pendant la pandémie, et puis demain, toutes ces grosses boîtes, elles vont être inondées de milliards d'argent public. Ça a été bien sûr toutes les mesures de secours pendant la crise. Mais là, donc il y a aussi le plan de relance de 100 milliards. Hein, ça veut dire que là, ils sont inondés de pognon. Si on veut que cet argent, il serve à relancer les emplois, à relancer les salaires, ou même si on veut qu'ils servent un petit peu à faire de l'écologie ou à faire des investissements utiles à la population, il va falloir le contrôle ouvrier. Il va falloir qu'on contrôle à quoi sert cet argent. Sinon, je vous garantis que cet argent, il va aller dans les profits encore d'une minorité, il servira à des caprices de riches, ok, mais le pire, c'est qu'il ira alimenter la spéculation. La sphère financière qui aspire aujourd'hui l'essentiel des richesses et qui fait que tous les experts économiques le disent, le craignent, ben, il y a des bulles spéculatives incroyables qui se baladent comme ça sur nos têtes et qui menacent d'exploser à peu près à tout moment. Donc voilà le système dans lequel on est. On nous fait trimer, on nous impose des sacrifices incroyables à nous, travailleurs qui fabriquons les richesses et qui sommes à la base de la société, tout ça pour enrichir une classe sociale n'a comme perspective que d'aller placer son fric en bourse, dans la finance, menaçant de tout faire exploser. Bon, alors, le contrôle ouvrier, on en reparlera aussi peut-être pour les trusts pharmaceutiques, etc. Mais voilà, c'est une question, ça sera une arme pour nous les travailleurs. C'est une façon aussi de dire, voilà, cette classe capitaliste, elle est irresponsable. On n'a aucune confiance à mettre à lui faire. Il faut la mettre sous contrôle. Il faut la mettre sous contrôle. Et ça, les travailleurs, ils en sont tout à fait capables parce qu'ils sont partout, même dans les bureaux, même dans les services de comptabilité, même dans ces services qui signent et qui rédigent ces fameux contrats. Ils sont de partout. On a les moyens de tout savoir. Eh bien, il faut s'en saisir. Sinon, encore une fois, il nous mène à la catastrophe, il nous mène dans une impasse. Alors voilà ce programme de lutte qu'on veut mettre en place. Vous voyez, on ne se présente pas dans cette élection régionale avec un programme électoral, le fameux catalogue des promesses électorales. Nous, on pense que le seul programme qui vaille pour les travailleurs, c'est des objectifs de lutte qui permettront d'inverser le rapport de force avec le grand patronat et qui donneront la possibilité aux travailleurs de se mettre en position de force. Voilà, pour, encore une fois, contrôler, mettre sous contrôle cette bourgeoisie et ce grand patronat. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé dans la pandémie, sans doute des centaines de milliers, peut-être des millions de femmes et d'hommes, je ne sais pas, qui ont réalisé qu'ils étaient essentiels pour faire tourner cette économie, qui ont réalisé que c'était eux qui portaient la société, eh bien, j'espère qu'un certain nombre aura envie de dire ce sont nos intérêts de travailleurs qui doivent passer d'abord. Voilà, que nos salaires, nos emplois, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les intérêts de cette classe capitaliste. Voilà. Et tous ceux qui voteront pour la liste lutte ouvrière, ils voteront aussi pour cette idée. Pour cette idée que les travailleurs, ils ont tout intérêt à changer cette société du tout au tout. Voilà. Dans cette campagne, on a envie de leur dire, ne votez pas pour des partis qui défendent ce système capitaliste. Voilà, qui défendent cette société où les uns triment du matin au soir, les autres crèvent au chômage. Où on peut bosser, être indispensable, et puis finalement ne pas pouvoir vivre de son salaire. Ne votez pas pour cette société capitaliste où des trusts pharmaceutiques ne jurent que par leur profit, se moquent complètement d'élargir la production de vaccins, s'arc-boutent sur leurs brevets, parce que, voilà, ils volent leurs milliards. Exprimez votre écœurement contre cette société-là. Dites que ça suffit, que cette société-là, elle nous mène à la catastrophe, à tous les niveaux. Catastrophe au niveau de la crise climatique et écologique, parce que c'est une évidence que si on laisse les manettes dans les mains de ces grands groupes, ils ne respecteront pas la planète. C'est d'abord je fais mon fric et puis après moi le déluge. C'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. Même s'ils se font, s'ils essayent de vanter leurs belles actions en termes écolo, là, vous savez, maintenant Total essaye de se faire de se présenter sous l'aspect d'une entreprise responsable et très très écolo. Voilà. Donc La réalité, c'est que non, ça, c'est, ils sont prêts à exploiter les travailleurs hein, jusqu'au bout, mais c'est pareil pour la planète. Et ils sont prêts à la détruire. Et ils ont déjà quand même, ils l'ont déjà fait en partie, d'ailleurs. Et voilà, donc, aucun des problèmes qui se posent à la société ne peut être résolu avec cette classe sociale qui domine et avec ce système, avec ces lois capitalistes. Aucun. Le sous-développement ne peut pas être résolu. Le sous-développement d'une partie de la planète ne peut pas être résolu puisque ces grands groupes continuent de piller hein, une partie de la planète, continuent, y compris à mettre des bombes à retardement dans un grand nombre de régions pour préserver leur influence. Hein, et c'est comme ça que non seulement aucune des tensions guerrières, aucune des guerres n'est en voie d'être résolue. Tous les foyers de tension de la planète sont encore là, et même à un niveau souvent exacerbé. Hein, parce que l'impérialisme, ben, il est inscrit dans la nature même du capitalisme. Alors oui, on ne résoudra pas ce problème-là. Hein, et regardez ce qui se passe avec les femmes et les hommes qui sont obligés de fuir de chez eux, de traverser la Méditerranée, de trouver une terre où ils peuvent vivre. Aujourd'hui, tous les États les plus riches leur mènent une guerre sans relâche. On est dans une société de plus en plus inhumaine, barbare, et ils veulent nous embarquer dans leur inhumanité et dans leur barbarie. Alors bon, je ne vais pas dérouler tous les obstacles, mais la crise économique, on pourra y revenir, ils ne peuvent pas la résoudre. Ils ne peuvent pas la résoudre encore une fois. La crise économique, elle s'explique parce qu'on est dans un système qui a plus de 200 ans, qui arrive à fin, qui arrive au bout du rouleau, en fait. Au bout du rouleau. Mais on pourra revenir dans la discussion sur le problème de la délinquance, le problème de l'insécurité, des violences, où on pourra y revenir. Hein. Mais pour nous, fondamentalement, c'est lié à cette société malade, c'est lié à cette misère croissante, à ces inégalités qui sont fabriquées par ce système capitaliste lui-même, basé sur l'exploitation. Voilà, alors, donc, vous l'aurez compris, hein, nous on lève le drapeau du renversement du capitalisme, hein, on défend nos idées communistes, nos idées révolutionnaires, hein, et voilà, on compte bien s'appuyer, encore une fois, sur ce qu'on a vécu, hein, sur le fait hein, que pendant cette pandémie, les travailleurs, ils ont dû affronter la situation, ils ont dû faire tourner la société. Souvent, ils se retrouvaient sans les chefs, sans les patrons. C'est eux qui ont trouvé les solutions, qui ont résolu les problèmes et qui ont tenu la société. Ben nous, en partant de ça, hein, ça nous conforte dans l'idée que les travailleurs, ils sont capables de la diriger, la société. Et il faut qu'ils revendiquent de la diriger. Parce que eux, ils la dirigeraient mille fois mieux hein, que cette classe capitaliste qui est aveuglée que par son fric. Ils la dirigeraient, les travailleurs, pour répondre aux besoins de la population. Juste une petite chose, mais quand les salariés des hôpitaux se battaient pour qu'il y ait plus de lits, pour qu'il y ait des embauches, pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail. Ils se battaient pour leurs intérêts de travailleurs, d'accord, mais ils se battaient aussi pour nous tous. Prenez toutes les entreprises où il y a des licenciements, où les travailleurs se battent contre ces licenciements ou contre ces fermetures d'entreprises. Bien sûr qu'ils se battent pour leurs intérêts de travailleurs, mais en fait, ils se battent pour les intérêts de l'ensemble de la société. Les travailleurs, le monde du travail n'a pas d'intérêts différents de ceux de l'écrasante majorité de la population. Et quand ils se battent, quand ils s'organisent, c'est pour l'intérêt de la société dans son ensemble. Donc oui, les travailleurs sont mille fois légitimes à postuler à la direction de cette société, à prendre le pouvoir. Alors nous, c'est ce drapeau-là hein, qu'on met en avant parce que c'est la seule issue et la seule perspective d'avenir, en fait, pour la société et je dirais même pour l'humanité. Voilà. Je voudrais dire que on est conscient du décalage entre ces perspectives qu'on a, nous, que les travailleurs réorganisent la société sur de tout autres bases, des bases collectives, hein, après avoir exproprié la bourgeoisie, après avoir pris en main l'économie, le système politique. Donc, entre ces perspectives-là et l'état d'esprit des travailleurs, on mesure qu'il y a un décalage, bien sûr. On est bien conscient, hein, on est sur la même planète que vous tous, hein, qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette confiance, hein, et dans le monde du travail. Il n'y a pas l'idée qu'ils seraient capables de le faire. Ils n'y croient pas, ils ne le pensent pas. Et même souvent, se battre, rien que pour revendiquer leurs intérêts, des fois même se battre, rien que pour revendiquer leurs droits, juste leurs droits, souvent c'est difficile. Hein, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des luttes ici ou là, il y en a, hein, mais elles sont morcelées, elles sont isolées et elles ne sont pas massives. Et rien de mobilisation d'ensemble. Donc, on mesure le décalage. Voilà, la situation, elle peut partir dans deux directions opposées, en fait. Elle peut donner le pire comme le meilleur. Le pire, c'est qu'il n'y ait effectivement pas de lutte collective, que les travailleurs ne renouent pas avec ces luttes collectives. Et dans ce cas-là, eh ben c'est effectivement, ça renforcera tous les réactionnaires. Ça renforcera les comportements individualistes, le rejet de l'autre, le chacun pour soi. Et ça sera les démagogues racistes, xénophobes, nationalistes qui prendront du poids, qui avanceront. C'est quand même c'est déjà ce qu'on mesure aujourd'hui. Hein, les idées réactionnaires, elles avancent. On a maintenant des racistes qui s'expriment de façon complètement décomplexée, hein, à tous les niveaux. Il y a cette surenchère aussi sécuritaire entre Macron, Le Pen, la droite. Donc on est déjà dans cette situation où on voit bien que tout ça, ça fait le jeu des plus réactionnaires, des plus racistes. Et on ne peut pas exclure que demain, Le Pen arrive au pouvoir. On ne peut pas l'exclure, ça. On ne peut pas exclure non plus qu'il y ait même un parti de type fascisant qui naisse et qui se développe. On ne peut pas l'exclure. Parce que dans des périodes de crise, il y a un tel désarroi, il y a une telle désorientation qu'il y a des femmes et des hommes qui sont prêts, effectivement, à renverser la table. Mais mus par le désespoir, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer, hein, aux vrais responsables et aux puissants, eh ben, ils vont s'attaquer à des pauvres. Ils vont s'attaquer à d'autres travailleurs. Et ça s'est vu dans d'autres périodes. C'est une évolution possible. L'autre évolution, ben, c'est bien sûr le renouveau des luttes collectives. C'est des réactions, c'est des explosions de colère. Nous, on pense qu'elles surgiront forcément, elles viendront. Elles viendront forcément. Le problème, c'est à quel rythme, quand, hein, elles viendront forcément. Mais encore une fois, lorsqu'il y a des explosions de colère, on en a vu quand même ces dernières années, à la fois, il y a eu la mobilisation contre la réforme des retraites, mais il y a eu aussi les gilets jaunes. Eh bien, il faut absolument que dans ces mobilisations, il y ait des travailleurs qui sachent quelle politique défendre, pour quels objectifs se battre, et comment, avec ces objectifs, on peut justement développer le mouvement, le faire avancer et en profiter pour vraiment inverser le rapport de force. Et que les travailleurs reprennent le dessus. Ça, c'est une question politique. C'est une question politique. Et nous, quand on discute là aujourd'hui, quand on se présente dans cette campagne électorale, on veut avoir toutes ces discussions et on veut mettre dans la tête des travailleurs que si demain, il y a des bagarres, il y a des gens qui veulent changer les choses, il va falloir militer dans ce sens. Sinon, ce sera un coup d'épée dans l'eau et on aura perdu une occasion d'avancer et même peut-être de changer complètement les choses. Alors nous, cette politique, vous voyez, c'est un combat politique. On ne se présente pas dans ces élections-là pour... on discutait avec les journalistes tout à l'heure pour préparer la présidentielle, même si, je précise d'ailleurs, je serai candidate à la présidentielle. Je vous l'ai dit, on se présente à toutes les élections. Voilà. Mais... Non, on se présente dans cette élection comme à la présidentielle, pour préparer les luttes du monde du travail et pour faire que ces luttes, effectivement, elles aillent le plus loin possible et qu'elles aillent jusqu'à changer complètement la société. Alors, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, on anticipe, peut-être, ok, mais nous, on pense que c'est la seule façon de préparer l'avenir pour les travailleurs et pour la société que de défendre cette politique, le camp des travailleurs. Voilà.